En introduction à ce culte, Joël nous a lu tout à l'heure quelques versets de l'évangile de Jean au chapitre 10 et j'aimerais relire ces mêmes versets maintenant et les commenter avec vous. Jean 10, versets 11 à 18. « Moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne ses brebis. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je lui donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jusque-là, la lecture. Seigneur, que cette parole, nous puissions la recevoir ce matin comme étant parole de vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Saviez-vous qu'à Paris, ou dans les environs de Paris, il y a des gens dont le métier est d'aller repêcher tous les objets qui ont été jetés dans la Seine? Et quand ces personnes remontent les objets de la Seine, il y a quantité de vélos, quantité de trottinettes qui ont été souvent volées ou qui ont été empruntées, et que les gens se plaisent à jeter dans la Seine. Vous avez déjà vu toutes ces stations où l'on trouve des vélos en libre-service ou des trottinettes en libre-service, et souvent des gens peu scrupuleux, finalement, avec ce matériel qu'ils ont loué ou qu'ils ont emprunté. Et certains se plaisent à aller au bord de la Seine, à épater leurs camarades, et puis finalement à jeter la trottinette au fond de la Seine. Comme ça, ils peuvent montrer leur liberté, montrer qu'ils sont libres par rapport au bien d'autrui. Et là, on a un paradoxe que l'on connaît sans doute tous, que l'on observe au niveau de la nature humaine. Quand c'est un objet qui nous appartient, on en prend le plus grand soin, on fait attention. On va veiller à l'entretenir, à le réparer, à faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Mais malheureusement, quand c'est un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, et c'est une observation que l'on fait parfois aussi dans les collectivités, quand cela ne nous appartient pas, on constate que les gens souvent prennent beaucoup moins soin du matériel qui leur est confié. À Paris, il y a des voitures en libre-service que l'on peut emprunter. Eh bien, on observe que souvent, il y a des déchets sur l'arrière de la banquette, qu'il y a des griffures, qu'il y a des salissures. Et jamais on ne ferait ça avec son propre véhicule. Et ceux qui jettent des vélos dans la Seine, jamais ne prendraient leur propre vélo, qu'ils ont payé difficilement avec leur maigre salaire pour aller le jeter dans la Seine. Donc cette attitude finalement très désinvolte à l'égard des biens d'autrui nous montre ce qu'est la nature humaine. On le voit dès l'enfance. Un petit enfant souvent va prendre soin de son objet qui va être très précieux pour lui, mais si c'est l'objet de sa grande sœur ou de son petit frère, c'est moins important. Bien sûr, on ne peut pas approuver cette attitude. Et quand Jésus est venu dans ce monde pour le changer, il a dit par exemple « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Et l'apôtre Paul, qui a suivi les enseignements de Jésus, va écrire aux chrétiens « Considérez les autres comme plus importants que vous-même ». Donc on ne peut pas prendre les biens d'autrui et en faire ce que l'on veut. Mais beaucoup de personnes sont très éloignées de ce que produit la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Beaucoup de personnes sont très éloignées des standards de Dieu et ils vivent en fonction de standards humains qui sont très différents et finalement très égoïstes. Si je vous dis cela, c'est que Jésus, dans la métaphore que nous venons de lire, part du même constat humain. Quand cela ne nous appartient pas, nous prenons beaucoup moins soin. Deux personnes aujourd'hui ont choisi de passer par le baptême pour dire qu'elles voulaient suivre Jésus pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, parmi nous, je ne sais pas qui connaît Jésus vraiment. Je ne sais pas si vous savez exactement pourquoi il est bon de suivre Jésus, mais l'histoire, la métaphore qui nous est racontée, nous dit qui est Jésus, comment il agit et aussi qui il n'est pas. Et tout d'abord, Jésus commence par une affirmation. Il dit « Je suis le bon berger ». Verset 11. Il est vrai qu'aujourd'hui, le travail d'un berger n'est plus très connu. Même si vous avez peut-être eu l'occasion, lors de vos vacances en France, de rencontrer un berger avec un troupeau d'une centaine ou de plusieurs centaines de moutons, cela m'est en tout cas déjà arrivé. Néanmoins, la manière aujourd'hui d'exercer ce métier n'est pas exactement pareille à celle de l'époque. Quelle sorte de berger Jésus est-il quand il dit qu'il est le bon berger? Quelle sorte de leader est-il? Vous savez, il y a 2000 ans, en Palestine, il y avait dans beaucoup de villages un enclos collectif, où les familles pouvaient parquer leurs brebis le soir, leurs moutons, pour la nuit. Et un gardien était payé pour surveiller l'enclos durant la nuit. Et le matin, les bergers revenaient, prenaient leurs moutons, le gardien laissait entrer le berger, parce qu'il connaissait les bergers qui avaient laissé leurs moutons. Il suffisait au berger de parler ou de faire « ouh » ou un autre sifflement quelconque, et les moutons reconnaissaient la voix du berger. Et il venait, le berger partait, il allait au pâturage avec ses moutons pour les nourrir. Jésus se décrit comme un berger. Les brebis sont toutes les personnes qui suivent Jésus, qui font partie de ce troupeau, de son peuple. Et au verset 12 et 13, Jésus montre combien son attitude de berger est différente de ceux qui sont simplement des salariés, des mercenaires, des gens que l'on paye pour faire ce travail, mais qui n'ont eux-mêmes pas de moutons. Ils ne sont pas propriétaires. Ces gens que l'on paie n'ont absolument pas la même attitude que ceux qui possèdent les moutons. Ils sont salariés. Et en tant que salariés, mais pourquoi prendraient-ils le moindre risque sur leur vie si un loup venait attaquer les moutons? Pour eux, garder les moutons, c'est juste un travail, comme n'importe quel autre travail. Et ils ne vont pas aller mettre leur vie en péril pour sauver quelques moutons si un loup arrive. Le salarié n'est pas propriétaire de ses brebis. Donc il ne va pas en prendre soin comme si ses brebis lui appartenaient. S'il voit le loup venir, il va les abandonner. Il veut sauver sa peau plutôt que de sauver la peau des brebis. Peut-être qu'il se dit « Mais mon travail ne mérite sûrement pas que j'y perde ma vie. C'est juste un travail. » Et quand le loup arrive, le salarié a déserté, il est parti. Et le loup peut se précipiter sur le troupeau, tuer plusieurs brebis et laisser les autres se disperser dans la nature. Si Jésus rapporte cette métaphore, c'est justement pour montrer que lui n'agit pas ainsi. Il n'est pas un salarié, il n'est pas juste un mercenaire. Il est un berger qui aime ses brebis, qui les connaît, qui ne voudrait en aucun cas que l'une se fasse manger par un loup. Ses brebis sont sa propriété, elles lui appartiennent, il en prend soin. Et dans le texte, Jésus redit une deuxième fois, « Moi, je suis le bon berger ». Et il ajoute, « Je connais mes brebis et les brebis me connaissent ». La différence de Jésus, bon berger, avec le salarié, c'est que le salarié aime plus sa vie que les brebis. Mais Jésus aime plus les brebis que sa propre vie. Et c'est pour ça qu'au verset 11, Jésus dit, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et au verset 15, en tant que bon berger, il dit, « Je donne ma vie pour mes brebis ». Il répète une troisième fois dans le texte la même chose au verset 17, « Je donne ma vie ». Une quatrième fois au verset 18, « Je donne ma vie de mon plein gré ». Jésus n'est donc pas un mercenaire. Ses brebis lui appartiennent. Il les aime. Et il les aime tellement qu'il est prêt à tout, qu'il est prêt à payer de sa vie pour protéger ses brebis du loup ou du voleur. Quand le loup arrive, il ne fuit pas, mais il l'affronte pour le tuer et sauver ainsi ses brebis. Alors vous allez peut-être me demander, mais de quoi parlons-nous exactement ce matin ? Qui sont ces loups ? Qu'est-ce qui menace le troupeau de ceux qui appartiennent à Jésus ? Eh bien, en lisant l'évangile de Jean, on s'aperçoit qu'il y a trois menaces au moins qui pèsent sur ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, sur ceux qui sont des disciples de Jésus. Le premier de ces loups, c'est sans doute le péché. Il est dit de Jésus en Jean 1, verset 29, « Voici celui qui enlève le péché du monde. » C'est pour cela que Jésus est venu, pour enlever le péché. Parce que le péché agit tel un loup. Il détruit, il dévore, il ravage, il nous coupe de Dieu. Le péché nous tue dans notre relation avec Dieu. Mais Jésus est venu dans le monde pour tuer ce loup du péché et pour tuer ses conséquences destructrices. Il est prêt à mourir, mourir à la place de ses brebis. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons même qu'il est devenu lui-même comme un agneau qui s'est sacrifié pour les autres brebis. Ésaïe nous dit qu'il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Le deuxième loup est sans doute celui de la mort. La mort, c'est le plus grand des destructeurs. Et chacun, un jour, va mourir, petits ou grands. Pauvres et riches, hommes et femmes, gens du sud et gens du nord. Et le troisième loup est sans doute celui du jugement. Parce qu'après la mort vient le jugement. Nous lisons cela par exemple en Hébreux 9, verset 27. Et pourtant, la mort ne va pas détruire tout ce que nous avons fait dans cette vie. La mort n'est pas un anéantissement, elle n'est pas une annihilation. Nos œuvres nous suivent dans la mort, nos choix de vie nous suivent. Et un jour, le juge suprême va nous juger pour les choix qui ont été les nôtres. Or, l'Écriture nous dit que nous avons tous péché, que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous été infidèles. Et de ce fait, nous sommes tous coupés de la communion avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu nous sauver de cette issue fatale. Il est le bon berger. Il attaque les loups ravisseurs, les loups du péché, les loups de la mort, les loups de la condamnation. Il est un puissant berger, un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et ainsi, par la puissance de Jésus, les brebis sont sauvées, elles sont épargnées. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit ceci. « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, celui-là ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Mais peut-être avez-vous une objection. Parce que si Jésus meurt pour ses brebis, n'a-t-on pas un grand problème? Qui va continuer à prendre soin de ses brebis? Certes, les loups ont été tués, mais qui va désormais conduire les brebis dans le pâturage pour qu'elles se nourrissent? Qui va aller à leur recherche quand elles s'égarent dans la nature? Qui va les protéger contre d'autres bergers qui sont des faux bergers, qui sont des prédateurs et qui voudraient se les accaparer? Est-ce que finalement, le fait que ce bon berger combatte les loups jusqu'à donner sa propre vie ne servirait à rien? Le verset 18 nous apporte une réponse. Jésus dit « Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quand Jésus a quitté le ciel pour venir parmi nous dans ce monde, il a obéi à un ordre de son Père. Il est venu en mission parmi les humains. Son Père voulait qu'il vienne mourir à la place des pécheurs et qu'ensuite il reprenne vie. Et son Père lui a donné l'autorité nécessaire pour aller à la mort, mais aussi pour reprendre la vie. Et Jésus a donc décidé de sa propre autorité, du moment où il accepterait d'être placé dans les griffes du péché, de la mort, d'être englouti par la mort. Cela signifie que la crucifixion n'est pas une mort accidentelle, que la crucifixion n'est pas un meurtre. Elle fait partie du plan de Dieu. Cette mort du Christ était nécessaire à notre salut. Mais ce que nous dit Jésus, et ce que nous apprenons de son histoire, c'est que Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts. Après 3 jours, il a décidé de reprendre la vie. Il est ressuscité. Et à ce moment-là, il était clair pour tout le monde que la bataille ne s'est pas terminée par un match nul, mais par une vraie victoire du bon berger. Jésus a triomphé. Et donc, le péché, la mort et le jugement ne peuvent désormais plus détruire aucune des brebis du troupeau de Jésus. Il y a au moins 3 conséquences pratiques que j'aimerais développer maintenant pour conclure. La première conséquence pratique de cet enseignement, c'est que le christianisme biblique ne consiste pas simplement à avoir une bonne confession de foi. Il ne consiste pas non plus simplement à être sauvé du péché et de la mort. Mais il signifie aussi avoir un bon berger. Un berger qui nous guide, qui nous nourrit, qui nous protège et qui fait tout cela parce qu'il nous aime et qu'il aimerait développer en nous l'amour aussi. Écoutez ce que Jésus dit au verset 14. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. » C'est assez époustouflant, c'est incroyable. Comment serait-il possible d'avoir une relation plus profonde, plus intime que celle qui lie Jésus à son Père? Comment est-il possible d'imaginer un amour plus grand que l'amour qui lie Jésus à son Père? Comment est-il possible de comprendre ce lien profond? Eh bien, c'est le même lien qui nous unit à Jésus. Jésus nous connaît aussi bien qu'il connaît le Père. Et nous pouvons le connaître comme lui connaît le Père. Il y a ici un lien de proximité qui n'existe nulle part ailleurs dans ce monde. Jésus connaît nos besoins, il connaît nos souffrances, il connaît nos joies, il connaît nos luttes, il connaît nos victoires. Et connaître Jésus, c'est connaître Dieu. On ne peut pas imaginer une relation qui soit plus satisfaisante que de connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître le Père, c'est être uni au Père. La deuxième conséquence découle du verset 16. Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau. » Ce verset nous apprend que la mission de Jésus n'était pas réservée aux seuls juifs. Jésus a aussi donné sa vie pour que d'autres brebis qui n'étaient pas dans le troupeau d'Israël puissent connaître Jésus. Il y a des brebis partout, à Jérusalem, mais aussi à Athènes, à Rome, à Paris, à New York, à Katmandou, à Hong Kong, à Pékin, à Riyad. Il y a des brebis partout. Pour toutes ces brebis, Jésus est le bon berger, un berger triomphant, un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand Jésus a repris sa vie, quand il est ressuscité, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, « Allez, faites des disciples parmi tous les peuples. » Voilà les autres enclos, tous les autres peuples. Et nous sommes, nous, appelés à poursuivre la mission de Jésus dans ce monde et à amener l'Évangile pour que des brebis de tous les enclos forment un seul peuple, le peuple du Seigneur. Troisième conséquence, si Jésus a reçu l'ordre de son Père de rassembler des brebis de différents enclos pour ne faire qu'un seul grand troupeau, s'il en a reçu l'ordre, il réussira. Il en a reçu le pouvoir. Il a reçu l'autorité pour rassembler des brebis de partout le monde. Et du coup, cela m'amène ce matin à vous poser une question. Fais-tu partie du troupeau? Fais-tu partie du troupeau? Es-tu une brebis du Seigneur? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu es prêt à le suivre partout, partout où il ira? Ce matin, les baptisés ont confessé vouloir suivre Jésus partout. Mais toi, es-tu prêt? Es-tu prêt également à suivre Jésus partout, en lui faisant confiance? Être chrétien, c'est cela. C'est suivre Jésus partout, en lui faisant confiance, parce qu'il est le bon berger. Ce matin, j'aimerais vous inviter, si vous n'avez pas encore cette relation à Jésus, si vous n'êtes pas encore une de ses brebis, à lui faire confiance. Ce matin, Jésus appelle. Suivons-le. Suivons-le en lui faisant confiance. Amen.